paroles d'un Aitachi avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio La Pourdie, bonjour. Chaque rentrée, après la période de l'été, est marquée par une nécessaire dynamique où chacun doit retrouver sa motivation pour aller de l'avant. Quels que soient les statuts, scolaires et étudiants, professionnels ou chercheurs d'emploi, retraités et associations, voire paroisses et catéchistes, se sentent presque des ailes pour reprendre avec confiance et détermination le labeur, pas toujours facile, mais nécessaire, du quotidien. Tous ? Non, pas exactement. Si j'en crois cet article d'un quotidien régional dans le courrier des lecteurs, il s'agit en l'occurrence d'une lectrice s'exprimant sur le caractère criminel d'avoir des enfants. Que la rédactrice de ce texte soit convaincue du progrès sociétal lié à l'avortement n'est pas la cause de ma réaction. C'est l'argumentaire présenté qui m'a surtout fait méditer sur la désespérance quotidienne inscrite entre les lignes de son discours. En bref, il est criminel de donner la vie à des enfants dans ce monde individualiste, sans fraternité ni avenir, sans bonheur, ni paix, ni joie. J'aurais voulu répondre à cette lectrice pour tenter de l'ouvrir à une autre vision que ce « nos futurs » qui condamne en elle l'envie de perpétuer le miracle de la vie humaine. Il y a des souffrances qui font souhaiter la fin de la vie. Il y a également des idéologies qui font la promotion de la négation de l'envie. Vivre cette désespérance n'est-elle pas déjà une forme de mort ? Pour moi, la rentrée est le temps d'un retour sur les événements de l'été. J'essaie de discerner les moments de véritable ressourcement. Puis, empli d'une profonde et joyeuse louange, je peux aborder les réalités quotidiennes, avec leur lot de contraintes et de défis, avec une force renouvelée par des rencontres pleines d'espérance. Aussi, je voudrais vous rapporter trois types de rencontres qui ont nourri ma joie et ma confiance pour cette rentrée. Ce sont des sources vivifiantes, sauvant de cette culture de mort qui étrangle tout désir de vivre. La première fois, c'était une surprenante invitation à participer à une soirée de danse proposée par des scouts et guides d'Europe de passage dans notre cher Pays Basque. Intrigué par l'événement, assez rare dans notre village, c'est avec un profond plaisir que j'ai participé à une soirée où danse folklorique, notamment d'Israël, et danse basque, Mouchiko, ont prouvé que ce peuple qui chante et danse au pied des Pyrénées, pour reprendre la formule qui désigne les Basques, s'est accordé son pas à l'universel dans le respect et la cordialité. Le lendemain, nous retrouvions les guides et scouts à la messe paroissiale avec en cadeau le témoignage de leur chant plein de ferveur. Nous avons eu aussi l'occasion de faire mieux connaissance avec ces jeunes adultes qui venaient de plusieurs régions de France et même d'Europe. Mais l'aventure s'est poursuivie pour eux dans la découverte des beautés de l'arrière-pays où ils se sont enfoncés à pied sur les traces des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, affrontant les noirs nuages en embuscade sur les premiers sommets. Nous les avons vus une dernière fois à l'occasion d'un concert choral offert devant l'église de Saint-Étienne de Baïgorry à la fin de leur périple. Sans souci de la pluie, ils avaient non seulement parcouru le chemin du pèlerin, mais avaient également appris quelques chants profanes et religieux du patrimoine basque. C'est sur la prière de Bouriaounak que nous avons été accueillis, tandis qu'ils répétaient avec leurs hôtes du village avant le début du concert. Celui-ci nous permit de retrouver ces chants dont la vertu première est de rassembler les générations sur le cœur de notre civilisation, alliant simplement les vertus cardinales aux vertus théologales dans une harmonie naturelle et divine, dans la beauté et la pureté des voix, dans le don gratuit des visages, souriants et lumineux. Le concert fut animé par le récit d'un scout de retour de Saint-Jacques, dont le témoignage sur ses rencontres sur le chemin a bouleversé plus d'un spectateur, et non des plus jeunes, tant son émotion a suscité la communion. Pour cette première rencontre, je garde le trésor de ces jeunes venus d'ailleurs, qui ne se connaissaient pas, et qui, en suivant les pas des pèlerins de Compostelle, ont rencontré un pays, des personnes qui les ont accueillis, et à qui ils ont offert leur propre richesse humaine, enthousiaste et généreuse. Qu'ils viennent d'Europe est aussi le signe d'une certaine civilisation, riche de racines judéo-chrétiennes, se transmet toujours, discrètement, mais insufflant sereinement la beauté de ses valeurs. C'est sans nostalgie d'une certaine chrétienté que je reçois leur témoignage, conscient qu'une chrétienté inscrite dans le cœur se perpétue et rayonne au travers de cette génération. La deuxième rencontre que je souhaite vous faire partager se rapporte au pèlerinage annuel des gens de mer au sanctuaire marial de Rocamadour. J'en ai déjà parlé sur Radio La Pourdie. La particularité de cette année, c'était la participation d'une quinzaine d'élèves de 3e de l'Institut privé de Limoges. Ces élèves viennent en pèlerinage dans le cadre d'une activité de rentrée organisée par leur établissement afin de construire la cohésion du groupe qui a choisi l'option « découverte de la défense nationale » pour leur année scolaire. Ils sont accueillis en outre en fin d'année sur un bâtiment de la Marine nationale, en l'occurrence le bâtiment porte-hélicoptère Tonnerre dans la ville de Limoges et ville marraine. Âgés de 13-14 ans, garçons et filles vont vivre pendant 2 jours une drôle d'aventure avec une marche de plusieurs kilomètres qui les fait arriver au pied de la cité mariale avant de gravir les diverses étapes du pèlerin amadourien dont la tradition a plus de 1000 ans, marquée notamment par la visite de la tête couronnée de Saint-Louis. Ces jeunes se trouvent ainsi accueillis dans le pèlerinage des gens de mer qui réunit les divers métiers de la mer ainsi que les plaisanciers et coureurs des mers, leurs familles et amis. Il y a un moment important pour ces élèves auquel chacun tient à participer avec une bonne volonté un peu brouillonne mais significative. Elle précède la remise des médailles puis la procession au flambeau sur la voie sainte et le grand escalier aux 216 marches que l'on gravit en priant la Vierge Noire. Il s'agit de la mise en place du grand pavois dans la basilique. Cette opération consiste à accrocher dans les galeries et au travers de la basilique un pavois de plusieurs dizaines de mètres constitué de dizaines de pavillons et fanions comme sur les navires au mouillage. La basilique s'en trouve transformée en vaisseau spécial en route vers un horizon céleste qu'un petit enfant, encore sur les genoux de sa mère, offre au monde. Certains de ces jeunes voient l'exercice comme une action sportive où la force peut porter l'échelle double, où l'agilité grimper dans les galeries, ou bien encore lier les signaux entre eux et les fixer dans des coins vertigineux. Ces exploits sont l'objectif majeur. D'autres, moins intrépides, conseillent et cherchent des solutions de prudence ou d'économie pour mieux répartir ou équilibrer la décoration, éviter les excès de zèle et les prises inutiles de risques. Conscients qu'il y a un enjeu d'harmonie entre les pierres de basilique et les tissus vivement colorés d'un pavois évocateur d'histoire, et de désir de fraternité. Enfin, quelques autres regardent l'agitation de leurs camarades avec la vision d'une humanité en quête de sens, s'alliant dans une symphonie des talents et des énergies pour rendre l'essentiel accessible, bien qu'invisible, mais si nécessaire pour parvenir à la communion. Tous ont fait le chemin, à leur niveau, vers la cohésion selon leur motivation. Un peu plus tard, encadrés par les porte-drapeaux des amicales d'anciens marins, ils reçoivent la médaille de leur institut sur laquelle le nom de Marie est inscrit. Le drapeau et Marie, unis dans une cérémonie symbolique pour un début d'année imprévisible, mais déjà inscrit dans une transcendance commune. Enfin, la troisième rencontre qui a marqué cet été nous ramène dans le Pays Basque, où les séminaristes et étudiants de propédeutique du diocèse sont accueillis pour la rentrée lors de la messe dominicale de ma paroisse. L'enthousiasme et la liberté de ces jeunes hommes, qui ont pour projet de découvrir et de répondre à l'appel singulier de Dieu au service de son Église dans leur vie, relèvent du mystère. Un mystère joyeux. Leur démarche ne relève surtout pas d'une mode, mais il s'agit de suivre le Christ chaque jour de leur vie, afin de témoigner de cette réalité divine qui s'est incarnée dans notre pauvre humanité, afin de la faire entrer dans la joie et la vie de son Créateur. Leur témoignage sur le parvis de l'Église après la messe apporte autant par l'enthousiasme qui les habite que par le rayonnement de leur diversité. Il y a comme une incarnation de la richesse de l'Église universelle qui s'exprime dans leurs origines, leurs talents, leur humble et sensible rayonnement. Ils sont, avec les scouts et guides d'Europe ainsi que ces adolescents du pèlerinage des gens de mer à Rocamadour, les réponses que je voudrais offrir à cette personne qui, dans son désespoir, écrit dans le courrier des lecteurs qu'il est criminel de donner la vie. Que le témoignage de cette nouvelle génération, qui s'apprête à prendre la relève d'une autre génération fatiguée des trahisons et des déceptions, des faux bonheurs, d'un progrès sociétal mensonger, soit une source de joie de vivre et de transmettre la vie. Lors du pèlerinage diocésain à Lourdes, merci de porter cette personne, ainsi que toutes celles qui subissent la souffrance de la perte du sens et du caractère sacré de la vie, dans vos prières. Merci de votre attention, bonne rentrée, à la prochaine fois.